dans le camping, les soirées du lundi sont dignes de celles d'un samedi soir.
C'est à la France que fut confiée l'organisation du 10e rallye international de camping.
La zone la plus touchée, c'est celle du camping.
Radio Camping Paris.
C'est tout l'été, du lundi au jeudi, de 19h à 20h.
Et il est 19h01 sur Radio Campus Paris et c'est tout de suite Radio Camping Paris. L'été va être très chaud à Radio Camping Paris et le cocktail de l'actualité que l'on vous propose de siroter bien sagement dans un Trosat en nous écoutant est explosif. Au moment où l'Europe tente de perdre de la graisse pour rentrer dans son maillot, vous vous demandez, amis campeurs, si votre crème solaire qui protège contre les UV protégera aussi des balles de calache. Fini de chercher les zones d'ombre sur les plages, vous préférez repérer les trous où vous pourriez vous cacher. Bref, cette année, on craint moins les insolations que les décapitations. Alors que celui qui voulait terroriser les terroristes n'est plus de ce monde, certains veulent terroriser les vacanciers et nous n'aurons même plus l'humour d'Alain Degreve pour nous échapper de tout ça. C'est avec lui une bonne partie de l'esprit canal qui nous a quittés. Et oui, il n'y a pas que les fanatiques qui tuent injustement, il y a aussi la maladie. Alors aujourd'hui, je le dis haut, je le dis fort, je suis Alain.
Radio Camping Paris.
Vous écoutez trop la radio, bonsoir et bienvenue dans Radio Camping, l'émission balnéaire qui préfère les pelles au râteau. Bonjour à tous les chroniqueurs autour de cette table.
Salut.
De préférence, Guillaume, Victor, Martin.
Merci.
Je préviens qu'en fil rouge de cette émission, amis chroniqueurs, car il est important d'éduquer nos auditeurs, nous vous apprendrons, chers auditeurs, le vocabulaire de la radio. Voilà, chacun, avant votre chronique, vous devrez définir un terme radiophonique. Alors j'ai une liste ici, Martin. Tu nous feras une définition de micro-trottoir.
D'accord.
Note-le parce que tu vas oublier et je vais te le demander.
Allez,
avant ta chronique.
En fait, tu prévois tous les moments où on va planter des trucs à l'antenne.
Exactement.
Et tu vas faire croire aux gens qu'on apprend des gens.
Exactement.
D'accord.
Guillaume, tu nous feras la définition de conducteur. Et Victor, tu nous feras la définition de enrobé.
Je suis pas sûr que Guillaume connaisse
enrobé,
la définition.
D'accord.
Et puis bah, sinon vous inventez, hein, vous êtes un peu imaginatif quand même. Quoi.
Ouais.
Mais tout de suite, d'abord nous voyagerons, hein, nous allons voyager avec Violette Voldoir qui nous revient, journaliste qui nous revient d'un périple de 3 semaines en Asie centrale et qui va nous raconter ses différentes péripéties de ce voyage. Alors qu'Alban arrive en retard pour la première émission que j'anime.
Bonjour,
c'est,
voilà, bonjour.
Ah, c'est Alban quoi.
Voilà.
Style.
Alors,
bonjour.
Violette, bonjour.
Bonsoir.
Donc voilà,
ça commence bien.
Je veux bien.
3 semaines en Asie centrale. Non, alors j'ai demandé à mes chroniqueurs un peu d'étudier tout ça, puisque voilà, c'était une émission très préparée. Martin, l'Asie centrale, vous pouvez nous en parler un petit peu.
Ça a des trucs qui finissent par ce temps.
D'accord.
Je peux pas
d'accord.
Faire mieux que ça. Non, ces trucs finissent par ce temps et on boit de la vodka, mais on n'est pas tout à fait russe.
D'accord.
Je peux
d'accord.
Faire mieux encore.
Ouais.
Ces trucs qui finissent par ce temps, on boit de la vodka, on n'est pas tout à fait russe.
Ce temps, ça veut dire pays. Il me semble, dans leur langue à eux.
En langue stand, oui.
En langue stand.
Ah, pas mal, Victor.
Il me semble. Avec un gros point d'interrogation.
Victor, tu gagnes 10 secondes sur ta chronique.
Et je
voilà,
te remercie.
Tu peux rajouter une petite phrase, c'est très bien joué. Non, mais c'est vrai, voilà, tout le monde ne connaît pas l'Asie centrale, ça ne parle pas à tout le monde. Est-ce que déjà, tu pourrais nous donner un peu, pas une définition, mais comment en parler, le situer
Mais c'est une sorte de no man's land imaginaire, hein, donc c'est bien. C'est bien qu'on en parle, hein, parce que moi-même, avant d'y aller, je ne savais même pas où c'était sur une carte. D'ailleurs, savez-vous où c'est sur la carte?
Bah moi j'ai regardé, mais
c'est quelque part entre le Japon et Israël à peu près.
C'est, ouais, bah, grossièrement traduit, on pourrait dire ça. Voilà. C'est globalement c'est au sud de la Russie et au nord de l'Iran, voilà à peu près. Donc c'est un territoire qui est assez énorme avec une grosse partie de désert, une grosse partie de montagne. Donc des gens qui vivent des endroits où il fait 45 degrés, des gens qui vivent dans des montagnes où à 3500 mètres d'altitude on se caille.
Et d'ailleurs, demain, ce sera notre journée hommage à cette partie du monde, puisqu'il fera 45 degrés à Paris.
Tout voilà. À fait, mais je pense très très fort à eux. Et aujourd'hui, toutes mes pensées vont dans leur direction, car là-bas, heureusement pour eux, ils ont une brise fraîche qui les rafraîchit, contrairement à nous qui, dans le RERB, sommes si étouffés.
Il y a un côté
c'est moins exotique dans le RERB, quoi.
C'est ça. Mais c'est donner une définition, globalement, c'est des pays qui... C'est un peu l'inverse de l'Union européenne, si vous voulez. C'est-à-dire qu'avant, nous, on avait des frontières. Maintenant, on n'en a plus, quasiment. Enfin, on a des poteaux indicateurs, quoi. Et maintenant, eux, ils ont des frontières, alors qu'avant, ils n'en avaient pas. Ils étaient sous l'égide de l'URSS.
Alors, toi, tu es allé là-bas. C'est assez drôle. Trois semaines. De constater ça. Et donc, c'est pour ton travail, hein. C'était pas pour le plaisir.
Pas du tout. C'était des vacances.
Ah, je pensais que tu avais réussi à faire croire à une boîte de prod que tu allais faire un reportage
non,
là-bas.
Non, mais j'ai dit à beaucoup de gens que j'allais griller, me dorer la pilule sous les cocotiers de l'ex-URSS, mais ça n'a intéressé personne. Hein,
ça n'a intéressé personne.
Alors, on va gérer les trois paragraphes suivants de questions sur ta feuille.
Oui, alors. Alban, si tu n'as pas de micro, c'est qu'il y a une raison. Hein, c'est qu'on ne veut pas t'entendre dans cette émission.
Qui est donc cet énergumène. Ça fait six mois que tu peux me poser plein de questions quand même, parce que j'ai préparé mon voyage un peu comme une journaliste dans l'idée de.
Pourquoi tu y allais ? Est-ce que c'est la perte d'un pari, une vraie envie ?
Tu m'avais dit qu'à la base tu croyais voir des nazis, mais en fait tu allais en Asie centrale. Enfin,
oui, c'est ça.
Beaucoup d'humour dans cette émission.
Alors, c'est très beau. Voilà.
Beaucoup d'humour. Dans les grosses têtes.
Quand on arrive à s'applaudir, c'est que t'es vraiment pas drôle.
Non, mais c'est vrai que c'est pas comme ça, une destination de vacances. On pense peut-être d'abord au Brésil, au Mexique. Là, c'est autre chose. Pourquoi ? Il y a sûrement des raisons.
Pourquoi le Brésil ?
Eh bien, c'est par amour.
Par amour.
Oui, complètement. Non pas par amour pour les Russes ou l'ex-URSS ou quoi que ce soit qui ait un rapport d'ailleurs avec le communisme.
Tu veux dire que tu as fait du tourisme sexuel là-bas ?
Quasiment, on peut le dire. Non, mais j'y suis allée avec mon compagnon qui est passionné par l'histoire de la Russie, de l'ex-URSS et de tout ce qui touche de près ou de loin à ce qui porte une chapka.
C'est bien Gérard Depardieu, son compagnon.
C'est donc bien Gérard Depardieu, oui. Et d'ailleurs, s'il m'écoute là actuellement, si tu m'entends, Gérard. Voilà.
Bois de l'eau.
Non, on est partis ensemble parce que lui était déjà allé là-bas. Il y a quelques années, il avait compris qu'on pouvait être là-bas autre chose qu'un touriste. Parce que c'est des zones où, globalement, tu as un peu de tourisme. Il y a
du tourisme quand même.
Il y a du tourisme dans les grosses attractions. Il y a des trucs à voir. Il y a Saint-Marcande, il y a des vieilleries en briques décorées, magnifiques et sublimes. Non, mais vraiment, c'est très très beau. Enfin, c'est qu'une demi-blague, en fait, en vrai. Mais en même temps, dans les zones un peu plus reculées, on peut être autre chose qu'un touriste parce que les gens sont d'abord curieux de vous. D'abord, ils froncent le sourcil et ils disent, mais qu'est-ce qu'ils font là ? Qu'est-ce que c'est que ces deux blancos qui sont paumés avec leur sac à dos ? Et puis ils sont très curieux, très cool, très gentils, très, très hospitaliers aussi, parce que dans toute la région, même jusqu'à l'Afghanistan, il y a quand même cette tradition d'hospitalité qui fait que, même si ils vous connaissent pas, ils vous accueillent chez eux et on est toujours bien reçus partout. Donc on y est allé parce qu'on avait aussi envie de faire autre chose que seulement du tourisme, pouvoir parler un peu aux gens et pouvoir dépasser cette condition-là.
Il y a très peu de régions du monde.
Bah, tu peux plus le faire, en fait.
Encore
quasiment.
En Irak, en Syrie, ou voilà.
Ouais, non, mais c'est vrai que il y a quelques vols qui vont à Erbil. On a failli se tromper d'ailleurs.
Il y a un guide du retard à Damas.
Victor, une question peut-être.
Oula.
Voilà. Non mais je ferai ça de temps en temps, vous n'êtes pas prêt.
Allez vas-y, il est chaud. Non Victor, j'y vais. Non, tu disais moi les...
Cassé.
Tu disais, donc les gens étaient sympas, etc. en termes d'accueil.
Oui, je vais pas dire que c'est des connards. Oui,
il y a des pays où c'est des connards. Voilà. Mais en termes, je sais pas, c'est quoi cette hospitalité ? C'est t'arrives chez eux et ils t'ouvrent la porte, sont cool ou c'est un peu plus financier
alors,
que ça peut-être ?
Non, c'est pas plus financier que ça. C'est vraiment un exemple qui me revient. On a fait la route, on a fait l'Ouzbékistan, donc vraiment sur la partie ouest de l'Asie centrale. On l'a fait d'ouest en est. On est allé ensuite jusqu'en mer d'Aral, enfin ce qu'il en reste malheureusement. Et ensuite on est revenu beaucoup plus à l'est, du côté des montagnes au Kirghizistan. Et là, on a fait un trajet tout à fait absurde en taxi brousse entre les deux principales villes du pays où tu dois traverser les montagnes à 3500 mètres d'altitude. Enfin, ce trajet est absurde, mais c'est la seule voie pour accéder. Et on était dans le taxi avec plusieurs nanas, et notamment une qui était voilée un peu partout, parce qu'elles sont tous musulmans en Asie centrale. Et visiblement, ça la dérangeait beaucoup qu'on ne soit pas mariés. Et ça la dérangeait beaucoup qu'on n'ait pas de religion. Elle ne comprenait pas. Ça la dépassait
un
complètement.
Un double mystère.
Donc on était en plein milieu du trajet, à la pause, au resto.
Mais tu communiquais comment avec
avec nos 14 mots de russe et d'anglais collectifs. Oui. Et puis il y avait aussi, parfois, souvent même, des gens qui parlent anglais, donc qui traduisent pour tout le monde. Et donc on parlait comme ça par personne interposée. Et puis à un moment, je voyais qu'elle me regardait. par en dessous, puis vraiment, je la dérangeais, quoi. Ben, on était assis, donc on était d'accord. Globalement à la même hauteur.
Tu peux regarder en dessous
hauteur.
Avec un voile.
Tu peux regarder en dessous avec un voile, mais pas, juste en dessous du petit foulard rose, là, comme ça, ouais, tu peux.
Ah,
c'est même assez méprisant, je peux te l'assurer. Et puis, on était au resto, donc la serveuse amène le thé, le pain, etc. Et elle a arraché la corbeille, elle a rompu le pain pour nous, et elle nous a servi le thé. Et à la fin du repas, elle a payé pour nous. Et elle voulait pas nous laisser payer, c'était même pas possible de l'imaginer.
Et pourquoi ?
Bah c'est ça, la tradition de l'hospitalité, c'est ça, c'est que même cette nana qui nous a méprisé de toute la puissance de son regard et qui pouvait pas supporter notre présence, eh ben non, c'est comme ça, c'est dans ses habitudes, on est là, on est des invités, donc elle nous accueille.
Même si elle t'aime pas.
Voilà.
Est-ce qu'elle aurait pas essayé de vous faire boire pour vous inciter à vous marier, autrement ?
Nous faire boire de l'alcool ? Mais je pense qu'elle sait même pas ce que c'est.
Ah, il y avait pas d'alcool ?
Pas dans son
cela
esprit.
Cela n'est pas autorisé par la religion musulmane.
Non, si, ça existe. Il y a quand même de la vodka qui est plutôt bonne, d'ailleurs.
Oui, après, il y en a.
C'était un voyage de 3 semaines...
Trois semaines de déambulation.
Un peu ton trajet, déjà comment tu circulais là-bas.
Difficilement. non, ça va, je caricature un peu. On arrive à Bishkek, au Kyrgyzstan, parce que c'est là que les vols sont les moins chers, n'est-ce pas ? Car ce sont là que les gens sont les plus pauvres. Donc forcément, les avions sont moins chers. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc on arrive à Bishkek, au Kyrgyzstan, et de là, on passe...
Pensez à tous les Africains qui meurent de faim.
Ouais. Voilà.
Et tous les habitants de Beauvais aussi.
C'est pour... Non, Beauvais, non, personnellement, c'est pas mal. Mais on part de Bishkek au Kyrgyzstan. Donc là, on est dans une ville de... Bah, c'est pas les montagnes, hein, mais bon, c'est pas loin. Donc là, t'es encore assez vert, assez cool. Et puis donc, pour aller de l'autre côté de la frontière, tu passes par un autre pays. C'est ça, le problème de l'Asie centrale. C'est qu'ils ont des frontières qui sont héritées des découpages des soviétiques.
Qui n'ont pas modifié.
Non, mais c'est l'absurdistan. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que tu prends un bus de nuit entre Bishkek et une autre ville qui s'appelle Tashkent. Tu es obligé de passer par un autre pays alors que les deux frontières sont collées. Voilà. Donc c'est sympa. Donc là, tu passes cette frontière
en bus, soit
à pied.
Ouais, au moins, t'as plein de tampons sur le passeport, ça, c'est cool.
Ah bah oui, puis tu les as bien mérités, des tampons, donc t'es content, quoi.
Tu disais que la frontière, c'était la grosse galère.
Les passages de frontières sont un peu compliqués.
T'as redécouvert le concept de frontière.
C'est pas la frontière entre la Belgique et la France, quoi.
Ah non, mais c'est absurde. C'est absurde. C'est-à-dire que...
C'est la frontière comme dans les vieux films.
Et encore, quand t'es français, tu te rends compte que ton statut de français t'avantage quand même clairement par rapport à n'importe qui d'autre dans le coin, puisque tu passes, donc tu prends le bus de nuit, tu rentres là, il est, je sais pas, 10h. À minuit, tu arrives à la première frontière, donc entre Kyrgyzstan et Kazakhstan. Attention, c'est important. Et là, donc, tu descends du bus, tu prends ton énorme sac sur le dos, tu suis toutes les petites babouchkas qui vont jusqu'au poste frontière.
Les babouchkas, ce ne sont pas des chaussures avec des mains et des pieds. Hein.
Alors, à destination de tous les Français et de tous les étudiants qui nous écoutent, par millions, les babouchkas, c'est grand-mère en russe. Et là-bas, tout le monde parle russe, évidemment. Donc, les babouchkas, tout le monde se comprend.
C'est la chanson de Kate Bush, d'ailleurs, babouchka.
Voilà.
C'était l'instant musique.
Tu viens de perdre les 10 secondes que tu as gagné tout à l'heure.
Merde.
Donc là, tu passes une première fois le poste frontière, donc qui est en pleine nuit, dans un no man's land, personne ne parle ta langue, tout va bien. Mais bon, globalement, tu suis à peu près les gens, tu sais, alors le mec regarde ton passeport 14 fois pour être bien sûr que t'as le bon tampon, tout ça. Mais les Kyrgyz, ils sont pas trop chiants, donc ils te laissent passer. Les Kazakhs sont un peu plus relous, donc ils sont un peu plus en mode képi, tu vois, donc... font un peu plus chier, regardent un petit peu plus toutes les pages où t'as été et tout ça. Mais bon, globalement, ils te laissent passer. Tu remontes dans le bus et là, 8 heures plus tard, t'arrives au milieu de nulle part, en fait, au milieu du désert. Donc, il fait 72 degrés à l'ombre, sans exagération aucune, parce qu'il faisait vraiment très chaud. C'était le début de la canicule.
On vérifiera.
En Ouzbékistan. Donc là, tu passes la frontière kazakh-ouzbek. Et comme, évidemment, ils ne peuvent pas se supporter, là, ça devient plus compliqué. Donc, on a mis... 2h30, un peu plus de 2h30 pour faire 200 mètres.
Ah oui,
Tu passes un premier planton. Voilà. Une fois que tu as passé le premier planton, tu peux
C'est ce que les gens ont mis sur le périph' quand il y a eu la grève des taxis.
C'est ça, non mais c'était sympa. C'est-à-dire que tu passes un premier planton, puis tu attends pendant 2 heures entre deux grilles. Il y avait en plein cagnard avec des képis qui disent les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Donc tu peux pas bouger,
et
qui te siffle parce que tu dépasses trop la ligne, tout ça.
Excusez-moi.
Qui te sélectionne par paquet de 10. Tu sais pas qui, pourquoi il
choisit. C'est complètement aléatoire et c'est juste
aléatoire.
C'est de l'impression. Ce que tu as vécu, c'est un peu ce que vivent les migrants quand ils viennent en Europe.
Tout
c'est
à
un
fait.
Peu toutes les merdes administratives.
En bien mieux. C'est-à-dire que moi, je suis française.
Oui, et en bien mieux.
Moi, je monte mon passeport, les mecs me disent ah, France, Zidane, très bien. Donc c'est bon, moi, j'ai aucun problème.
Y avait-il dans les bus que tu prenais de la musique?
Non.
Et bien là, il va y en avoir sur Radio Camping Paris.
D'abord,
tu nous définiras le mot transition, d'ailleurs, pour le coup. On revient dans quelques secondes sur Radio Campus Paris. Et 19h19 sur Radio Campus Paris. Alban, vous a donné un micro, mais il va falloir être sage quand même. Alors, juste avant votre chronique.
Eh ben attends, j'ai sorti le Robert là.
Mais c'est bien, c'est très bien.
D'accord. Vous êtes appliqué.
Pour l'instant, on parle de l'Asie centrale avec Violette qui nous raconte son périple de 3 semaines là-bas où on a compris que les voyages avaient été un peu compliqués, surtout les passages de frontières. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris là-bas ? On est toujours surpris quand on va dans ce genre de pays, de choses qu'on s'était imaginé, qu'on avait fabriquées et qui sont très différents. Apparemment non.
Un peu tout.
J'avais envie de faire une réponse de Normand, hein, comme le Normand.
Vous êtes auvergnate, donc c'est un peu.
Oui, c'est exact. Qu'est-ce qui m'a surpris là-bas? Tout. La langue, le fait que, effectivement, je savais que c'était un pays de l'ex-Union soviétique, mais enfin tout le monde parle russe. Donc avec mes 14 mots de russe, globalement, on arrivait à peu près à se faire comprendre.
Tu en as vraiment 14, hein, tu l'as déjà dit la dernière fois, c'est vraiment 14.
Enfin, je suis journaliste quand même, donc c'est mon métier d'être précise. Qu'est-ce qui m'a surpris? La gentillesse des gens, les pratiques des gens avec l'eau, ça m'a plus que surpris.
C'est-à-dire
que c'est un pays où
avec
il fait...
L'eau.
Alors oui, y a le côté des touristes, hein, donc on est surpris partout, par la bouffe, la langue, etc. Et puis, il faut savoir que l'Asie centrale, c'est un pays où il y a quasiment plus d'eau qui va se jeter dans une des mers qu'il y a en Ouzbékistan, où c'est un truc en plein milieu d'un désert. Donc il y a une mer qui est en train de s'assécher, en train de mourir, qui s'appelle la mer d'Aral. Et tout le long du fleuve qui est censé se jeter dans cette mer et qui ne s'y jette plus, du coup... Il y a des champs énormes, du coton, des champs de blé, des champs de maïs, tout ça est très vert, très foisonnant, et des arbres, enfin... Alors qu'on est quand même dans un désert, donc tout ça est posé sur du sable, et si papy il oublie d'arroser son jardin le soir, le lendemain matin c'est grillé, quoi. Donc vraiment, il faut faire gaffe. Et dans ces villes-là, il y a, à la place de là où on a nos caniveaux, c'est-à-dire dans la rue, hein, tu te promènes dans les rues. Il y a des tranchées d'à peu près entre 50 et 1 mètre de haut, de profondeur, pardon. Et il y a de l'eau. Il y a de l'eau, c'est-à-dire qu'il y a des ruisseaux dans les rues. Dans des rues où, par ailleurs, on coupe l'eau aux habitants.
Alors, je crois que tu étais à Venise, en fait.
Tu t'es trompé.
On va refaire l'émission,
c'est pas grave. Il y avait des gens avec des masques.
Non, mais c'est très impressionnant. Voilà, c'est ce genre de choses qui sont toujours...
Mais je me dis bien que ce LSD n'était pas normal. Enfin,
dis donc, c'était légal.
Hein, je l'ai pas LSD. Bien.
Et toi qui es journaliste quand même,
tu prends du LSD,
on peut le dire. Hein.
Non, c'est faux.
C'est pas un bel exemple.
Tu es journaliste. Est-ce que tu n'es pas parti dans un esprit de faire un reportage là-bas, mais est-ce que tu t'es pas dit j'aurais dû prendre ce sujet, cet angle-là, ça aurait été intéressant.
Ah, mais évidemment, mais
t'as dû avoir des idées.
Eh bien, c'est trop tard.
Que tu dis.
Ah. Tu auras encore des plans là maintenant, enfin, j'imagine que tu as pris pas mal de photos.
Alors je vois l'intérêt s'éveiller dans ses yeux.
Voilà.
Oui, tout à fait. Nous avons des contacts, mais en plus on a un projet avec mon compagnon de revenir.
Pas de soirée diapo, par contre, hein, s'il te plaît.
Non, mais enfin, on va vous épargner ça. De toute façon, on ne fait plus ça depuis avant que je naisse. Enfin, ça va. Donc merci. Mais non, par contre, j'ai eu des idées de sujets à peu près dans toutes les villes où je suis passée, parce que c'est une zone qui est très très mal connue. Très mal défini et qui pourtant est stratégique et qui va le devenir de plus en plus parce que la Russie va se tourner et se tourne de plus en plus vers l'Asie centrale pour tout un tas de trucs, notamment pour le gaz. Les Chinois viennent aussi pomper tout le gaz qu'ils peuvent dans les sous-sols de l'Ouzbékistan. Donc c'est pas...
Politiquement,
ça
stratégiquement...
Ça va bouger.
Hein,
dans les 10 prochaines années, il va se passer des trucs en Asie centrale.
Donc peut-être un futur voyage pour retourner avec des idées.
Voilà, c'est en gestation.
Donc, avis aux boîtes de production.
Si vous m'entendez...
Et justement, tu as dit que cette zone était très stratégique, ce qui peut expliquer la présence de dictatures, ou tout du moins de régimes autoritaires. Est-ce qu'on peut espérer dans les prochaines années peut-être des mouvements démocratiques, des révolutions citoyennes dans ces pays-là?
Très compliqué de répondre à cette question. En deux mots, dans tous les stands qui est en Asie centrale, il y a une seule vraie démocratie, c'est au Kyrgyzstan. C'est là aussi où les gens sont les plus pauvres et c'est là où il n'y a pas de ressources en pétrole et en gaz. Donc, techniquement, ils ont globalement pas trop les moyens de leurs ambitions politiques, sauf qu'ils y arrivent quand même. Bon, il y a notamment un comité LGBT, c'est-à-dire lesbienne, gay, bi et trans là-bas, qui fait des manifestations, qui se bat pour le droit des homosexuels.
Ça doit être moins rigolo qu'ici.
Ah mais écoute, ça a l'air quand même assez funky. Hein. Enfin, les photos qu'ils postent, ça a l'air d'être une gay pride quand même plutôt cool.
Ouais, parce que hier on parlait d'Istanbul où les mecs se faisaient massacrer.
Voilà, exactement.
Ah oui, alors pour le coup, l'islam n'est pas du tout vécu de la même façon en Asie centrale. Mais politiquement, en fait, le degré de propagande dans tous les autres pays, il est très très fort. On a parlé du coton avec des Ouzbeks, en leur demandant, mais attendez, la monoculture du coton, ça vous pompe toutes vos ressources en eau. Du coup, vous avez une mer d'Aral qui est en train de mourir et tout. Enfin, comment vous comprenez ça? Et ils me disent, non, mais le coton, c'est une plante qui n'a pas besoin d'eau. D'accord.
Géo trouve tout.
Mais du coup, à savoir que c'est une plante qui a le plus besoin d'eau au monde.
Bah, hein, voilà, mais alors
c'était
du
ça
coup...
la blague en fait. Merci Martin.
Il faut quand même l'expliquer parce que il y a des gens qui ne savent pas forcément. Ouais. Toi. Tout le monde n'a pas la main verte comme toi, Adrien.
Mais il y a carrément des rizières en plein milieu du désert. Donc et les gens on te dit ça normalement et puis tu leur dis mais pourtant le gouvernement vous coupe l'eau entre 11h du soir et 7h du mat en vous disant que c'est pour préserver la ressource. Ah oui, mais c'est parce que c'est pour l'agriculture tout ça. D'accord. Et donc, tu ne vois pas le lien? Non. D'accord. Ok, pas de souci. Donc, tu vois à quel point la propagande, elle est forte, elle est ancrée, et c'est très difficile de parler de ça avec les gens.
Et ben, en tout cas, si vous retournez là-bas et que vous faites des reportages plutôt audio, c'est plutôt la radio.
Oui, plutôt
voilà,
audio.
Vous pourrez venir en parler dans la matinale. On sera ravis. Hein.
Merci
Violette
à vous.
Voldoir, de vous revoir. Je t'ai tutoyé, je te vous vois, tout va bien.
Et vous voyez-moi, tutoyez-moi.
Et, la Russie nous a piqué Gérard Depardieu. La Russie nous a piqué Gérard Depardieu. Mais on a encore en France un réalisateur qui est un peu dans la même trempe. Que Gérard Depardieu.
Mais tes transitions sont de mieux en mieux,
merci,
Adrien.
Merci.
C'est incroyable.
C'est un diesel, Adrien. Il démarre doucement, mais après.
Ouais.
C'est que le deuxième jour de Radio Camping Paris, quand même.
Attends. Tu allais commencer ta chronique, là? Je t'ai demandé une définition tout à l'heure.
Tu veux que je te casse la gueule ou quoi?
Quelle est la définition de micro-trottoir? C'était micro.
Non, ça, c'est moi, ça. Ah, hein.
Alors, définition de d'enrobage.
Enrobage. Alors, comment tu pourrais définir à les gens qui connaissent moins
déjà,
la radio?
Il y a plusieurs types d'enrobage. Il y a enrobage goût fraise, goût chocolat, et on peut l'appliquer à peu près sur tous les types de gâteaux.
Alors, plus précisément sur la radio.
Sur la radio, pardon. Alors, un enrobage, je sais pas ce que c'est. Je
c'est pourrais
vrai pas le définir.
Eh ben, écoute, c'est très bien. Comme quoi, on apprend aussi à nos chroniqueurs leur boulot. C'est magnifique. Un enrobage. On dit aussi.
Ça se paiera. Mais de toute façon, ça se paiera. Tout ça.
Écoutez la réponse. On dit aussi papier plus son. Il s'agit des commentaires d'un journaliste et non d'un commentaire illustré par des sons, interviews, etc. Un enrobé et en général enregistré à l'avance. Sachez-le.
Je suis content qu'on l'explique pas comme ça aux bénévoles de Radio Campus parce qu'ils n'auront rien pipé.
C'était très clair.
Mais c'était hyper bien. J'adore.
Donc du coup, comme vous n'avez pas su répondre, vous aurez 10 secondes en moins sur votre chronique. On vous écoute sur Gilbert Mocky. Je crois que vous êtes allé voir le dernier Mocky.
Le dernier Gilbert Mocky, le dernier Jean-Pierre Mocky.
Jean-Pierre.
S'il faut vous apprendre votre
Jean-Luc.
Boulot à vous aussi. Alors,
il y a une ambiance de merde dans cette émission.
Chers auditeurs.
Je vais m'enlever 10 secondes aussi d'émission.
Tu me permets que je commence ma chronique?
Oui, vas-y.
Non, il y a une très très bonne ambiance en vrai dans le studio.
Action.
Merci. Chers auditeurs, ici la voix. Enfin, je veux dire, peut-être que vous reconnaissez ma voix, hein, que vous avez pu entendre dans Feu, l'émission Garde à vue. Mais aujourd'hui, point de Gérard ou de pseudo-flic infiltré. Bas les masques et les plumes. Ce soir, je me dévoile, je me mets à nu, à poil, cul nu, la bistouquette à l'air. Ce soir, ce n'est pas le comédien que vous entendrez, non, c'est moi, Victor. Et si je me dévoile ainsi, mettant à jour mes secrets et mes fragilités, c'est pour vous parler d'un réalisateur. Jean-Pierre Mocky, et non pas Gilbert, comme un certain Adrien a pu vous parler. Et de son dernier film, Les Compagnons de la Pomponnette. Alors, pour la petite anecdote, j'ai fait de la figuration dans ce film. « Ohé, du bateau !» me cria un ami. « Mocky tourne son dernier film. Veux-tu participer au projet de ce maître du cinéma français ?»« Bien sûr !» lui répondais-je, plein d'entrain et d'espoir. Me voici donc, en plein mois de janvier, avec des températures proches de la tête à Toto, en train de m'encanailler dans une fausse fête du village, tandis que mon ami jouait le rôle d'un pompier, tout cela sous les hurlements mythiques de Mocky.
Allez, moteur!
Allons-y!
Moteur! Clap de fin éventuel... Moteur! Moteur!
Vas-y, vas-y, Jean-Pierre!
Moteur! Moteur!
Allons-y!
Moteur!
Il y a peut-être une sale ambiance dans l'émission, mais sur le plateau, il n'y avait pas l'air d'avoir une très bonne ambiance.
Ce mec
alors,
est complètement arraché.
Vous avez reconnu l'extrait du reportage Striptease, un super reportage. Alors, quelques mois plus tard, donc le 29 juin, très exactement, je m'en allais voir ce joyau du cinéma au Desperado. C'est le cinéma dont Jean-Pierre Mocky est propriétaire.
Qu'il a racheté, oui.
Ne cherchez pas, ce film n'est diffusé que dans ce cinéma. Et plus pour très longtemps, d'ailleurs, la dernière séance est prévue ce soir à 22h. Et quelle ne fut ma surprise de découvrir que...
Bah c'est de la merde.
C'est de la merde. Il y avait un petit extrait son pour illustrer.
Il court.
Ah non, cette matière.
Ah bah.
C'est de la merde.
Ben voilà, exactement.
Alors, derrière la vitre, en fait, il faut quand même m'expliquer ce qui est en train de se passer. On a un rec qui est en train de paniquer, qui est en train de regarder où elles sont,
tout,
qui regarde à gauche, à droite, à
alors,
gauche, à
alors,
droite.
Bon, tu laisses Antoine tranquille.
Il est méchant. Non, mais je t'aime.
Alors.
Oui, revenons à la chronique.
Revenons à Gilbert. Non, c'est génial de vous passionner.
Jean-Luc. Jean-Luc.
Donc, alors, Roger Mocky, les compagnons de la pomponnette. Alors, ce petit extrait pourri, tout ça pour vous dire que c'était de la bouse. C'était une grosse bouse.
Voilà. Mais ce donc, titre est incroyable.
Au bout de quelques minutes d'interrogation, alors, où j'étais en train de me demander si le jeu des acteurs était à prendre au second degré et si la nullité des cadrages était un hommage au film de Godard, je me suis aperçu que non, rien de tout ça n'était voulu. Le film était censé être une comédie, mais il le faisait rire à ses dépens. C'était donc officiel, ce film était un nanar, c'est-à-dire qu'il était tellement nul qu'il en devenait savoureux. Alors je vous fais le pitch rapidement, hein. Dans une délicieuse scène d'ouverture où le cabotinage des acteurs ferait passer Cyril Hanouna pour un présentateur neurasthénique, un prêtre et une bonne sœur sont surpris en train de s'embrasser. Ils sont alors défroqués par le cardinal Trouduc, que nous ne tarderons pas à découvrir ses penchants pédophiles. Je rappelle que c'est une comédie. Notre couple de cubénis s'installe donc dans une maison et découvre bien vite que le voisinage s'adonne au libertinage autour d'un barbecue. Alors qu'ils s'endorment, le prêtre reçoit la visite d'un ange, joué par Jean-Pierre Mocky. Ce dernier lui intime l'ordre de créer un compagnonnage, les compagnons de la pomponnette, afin de convertir les gens au libertinage pour permettre d'éviter des relations de jalousie et de mensonges et pourrait donc éviter l'adultère. Déjà, on sent toute la légèreté du propos. On marche sur des œufs. Le film peut très vite tomber dans des blagues lourdes, beaufs, homophobes. Mais rassurez-vous, Mocky ne va pas tomber dans ce piège, il va y plonger. S'adonnant donc à une surenchère de situations inutiles, longues, avec des dialogues mous, des blagues gênantes, mais surtout des acteurs au sommet de la nanardise. Alors, ces acteurs, soit ils se contentent du minimum et récitent leur texte qu'ils ont dû apprendre 2 minutes avant de venir sur le plateau, soit ils cabotinent. Mention spéciale au commissaire, totalement hystérique, dont la plupart des interventions sont tellement surjouées qu'elles en deviennent gênantes. Et on touche au principal point de nanardise du film. Les scènes gênantes se suivent, mais sans se ressembler. Après un couple composé d'une naine et d'un géant à l'articulation difficile qui fornique uniquement en portant des masques d'Elvis Presley et de Marilyn Monroe, c'est véridique, vient la scène du cardinal pédophile, qui finira d'ailleurs tué par un chasseur dans un parc.
Ah mais ne dis pas la fin.
Il y a aussi cette scène du maire avec une touffe de cheveux sur la langue. Le maire parle tout le temps comme ça dans le film, qui se fait couper les testicules et qui va évidemment les chercher pendant tout le film, constituant l'un des nombreux running gags du film.
C'est un peu comme les clés de bagnole mais avec des couilles quoi.
C'est ça. Mais à côté, je te jure, les clés de bagnole, mais c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre d'ailleurs, je trouve.
Moi, j'aime
cette scène, il y a aussi cette scène où des éjaculateurs précoces se font dessus après avoir vu une paire de seins. Subtilité, finesse. On peut aussi citer les nombreux second rôles qui semblent avoir été castés uniquement en raison de leur absence de jeu, hein, et leur absence aussi manifeste de rémunération. Bref, un film qui m'a fait beaucoup rire, mais à ses dépens. Alors, je ne prétends pas être critique de cinéma, mais n'importe qui pourra constater le gouffre qui sépare les anciens films de Mocky, salués par la critique et le public, de ses plus récents films qui semblent être faits pour apparaître dans les colonnes du site Nanalord. Alors, plus raciste que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, plus gênant que Les Visiteurs en Amérique, je vous présente Les Compagnons de la Pomponnette. Merci.
Et voilà, et si vous voulez vous faire votre avis, donc c'est le dernier soir, ce soir.
Ce soir, à 22h.
Rue des Écoles, à
22h. Parce que la critique était différente.
Vous aurez un avis différent. On revient tout de suite après quelques notes de musique sur Radio Campus Paris.
Radio Camping Paris. C'est tout l'été, du lundi au jeudi, de 19h à 20h sur le 93.9.
Ouais, ouais. Oui, allô ? Et c'est très très drôle.
Disais, on parlait.
Ah, c'était la petite blague.
On avait eu un petit débat cinématographique.
Tu fais des vannes musique, toi.
Quand on pense qu'il a quand même fait des films comme À mort l'arbitre.
Non, mais c'est
arrivé
super
à
de
cela.
Film.
Moi, j'ai un ami qui a tourné dans un de ses films l'année dernière. C'est peut-être celui-là d'ailleurs. Et il me disait, c'est pire que la télévision. C'est-à-dire qu'ils font un nombre de plans incalculable par jour.
Et le mec, ça n'a plus aucune logique. Enchaîne les films. Il en fait 3 ou 4 par an. mais la qualité est... Mais je vous jure, c'est vraiment un nanar, mais ça en devient, c'est très très drôle et c'est très savoureux.
Et du coup, bon bah, il a acheté son cinéma.
Il a son cinéma.
Il y a Dieudonné et Moki, quoi. Il a son cinéma et il joue dedans. Enfin,
c'est voilà, un joli parallèle.
Non, mais je veux pas comparer, mais je veux dire, en tout cas, ils s'autoproduisent. Enfin voilà, ils font leur truc dans le monde.
C'est les seuls qui sont prêts à les produire, en fait.
Oui, donc c'est un petit peu ça. En parlant de transition, Alban, c'est le moment de nous définir le terme de transition.
Ah, transition. Alors, ça commence bien avec un T, ça finit bien avec un N.
Ouais, orthographiquement parlant, c'est pas grave.
C'était pour chercher dans le Robert, soyez un petit peu sérieux. Alors, je t'ai trouvé une vague définition.
Ça, c'est transit, je lis, ça, c'est transit.
Ah,
ça n'a rien à voir.
Alors, attends, je poursuis.
Très,
je
très
poursuis.
Bonne vague.
Oui, ça n'a rien à voir avec l'intestin.
Allez, on
avec
t'écoute, un organe. Vas-y.
Alors, je dirais, cela dit, il peut y avoir un lien avec l'intestin.
Tout hein, à fait.
Puisque finalement, la transition pourrait être considérée comme une forme ou d'aspect, d'objet, ou bien dans une émission par exemple de séquence, une transition donc entre deux séquences comme par exemple typiquement le fait de dire Alban ça va être ta chronique et le fait de pour moi démarrer ma chronique, voilà. Ça me fait d'ailleurs penser, et d'ailleurs on pourra aller voir la racine latine du mot qui elle-même d'ailleurs...
En fait, si je te coupe pas, tu vas durer 10 minutes.
Okay. Absolument, bien
donc
sûr.
En fait, maintenant, ce sera en 150 signes. Ah, voilà. Une transition, forme de liaison entre deux séquences d'une émission. Il peut s'agir, par exemple, d'une transition dite cut, qui est une coupure nette d'un fondu enchaîné.
Merci
qui
Adrien,
permet de
tout.
Passer progressivement d'une image à l'autre ou d'une ambiance sonore à l'autre. Voilà, une transition, c'est exactement ce que j'ai pas fait pour te lancer, Alban.
Voilà.
Donc, tu vas nous faire un quiz rigolo, c'est ça?
Oui, je vais faire un petit quiz rigolo. Alors, chers amis, je vous ai fait un petit pot-pourri des meilleures citations de la semaine. Alors, soyez prêts. Attention, le buzzer est en face de vous. Le premier qui réagit à... Évidemment, on ne regarde pas ma feuille.
C'est ta faute, tu la laisses.
Oui, je vois mon voisin de droite qui lorgne sur...
Non, tes seins ne sont pas des buzzers. C'est pas la peine de faire signe.
Mais notre invité peut effectivement participer à ce questionnaire.
Je crois que c'est ça qui va chercher à savoir.
Mais j'aurais deux buzzers de plus que vous.
C'était donc ça. Alors, première citation. Sans plus attendre, alors évidemment, on devait trouver la personne qui a dit ça. Hein. Alors, ce qu'ils sont prêts à te donner, ce sont des cordes pour te pendre. Tu dois les refuser et demander à la place une échelle.
Pasqua ?
Ah non, ce n'est pas Charles Pasqua.
C'est un Français.
Il a pendu quelqu'un d'ailleurs, Charles Pasqua. Ce n'est pas un Français.
Il a pendu plein de gens, Charles Pasqua.
C'était un politique ?
C'était un politique, oui.
Il est mort ?
Non, il est toujours vivant.
Il l'a dit cette semaine.
Pas combien de temps, mais il l'a peut-être dit un petit peu avant, mais enfin, c'est
un Grec, non ?
Effectivement, c'est un Grec.
C'est Tsipras.
Ce n'est pas Tsipras.
Yaroufakis.
Et c'est effectivement Yaroufakis. Bravo, vous n'êtes pas buzzé, vous n'avez pas le point, mais c'est effectivement Yaroufakis. En parlant de la dette grecque, hein, je vous passe les détails, mais enfin c'est assez explicite. Alors deuxième citation. Est-ce que vous pensez sérieusement qu'à mon âge,
non,
je vais devenir une balance?
Ah ben ça c'est facile, ça c'est Charlie ça. C'est Charlie qui
est Charlie, c'est moi qui l'ai dit. Ah ouais, vous pensez sérieusement une comme mon âge?
Tu imites super bien Charles.
Oh, hein.
C'était mon idole de jeunesse.
C'était
oui, Jacques Pasqua qui nous a effectivement quitté cette semaine. Hein, voilà, je pense que
c'est une bonne chose de faite d'ailleurs.
Une chronique, responsabilité de vos propos. Hein, je pense que vous allez revenir dedans dans une chronique d'ailleurs.
Il rejoint Malik.
Allez, une dernière petite.
Déjà une dernière.
Ils diront voir ensemble deux. Le paradis.
Allez, deux. Si Martin.
1,6 plutôt milliards d'euros. C'est ce dont les Grecs ont besoin. Cela semble beaucoup, mais c'est seulement 3 euros par Européen, soit le montant d'une demi-pinte de bière à Londres, ou celui d'une salade feta olive.
Oui. Ça, c'est le mec qui a dit ça.
C'est un peu long, je vous l'accorde.
C'est une plante à Budapest aussi.
C'est Jean-Claude Juncker qui a dit ça, non?
C'est non plus pas Jean-Claude Juncker. Ça aurait été marrant qu'il dise. Ça aurait détendu un peu l'atmosphère.
C'est le gars qui a organisé la récolte de fonds pour rembourser le FMI.
Ah oui, le Britannique.
Et c'est une grosse arnaque, cette histoire, d'ailleurs.
Je pense que le mec va se mettre
plein la gueule. Exact. Donc, pour info, effectivement, c'est un jeune londonien qui s'est dit, qui a déjà quand même recueilli plus de 186 000 euros, qui a lancé une opération de crowdfunding pour sauver la Grèce.
Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est que les gens.
Non, ça t'impressionne pas tant que ça. On va y aller tout de suite. La dernière, la plus courte.
Je te nique, Thérèse. Je te nique.
Allez, j'en ai une dernière.
En plus,
dernière.
C'est jetant cul, Thérèse.
Hein. Une dernière rapide.
Cette proximité avec les éléphants était une première pour moi. Ce qui m'a frappé, c'est à quel point ils sont imposants et en même temps silencieux. C'était à couper le souffle.
Brigitte Bardot ?
Non, alors là, si vous trouvez, vous êtes très fort.
Ah, c'est ça, en tout cas.
Non, c'est pas Zaya.
Non, c'était pas Zaya, non.
Non.
C'est une actrice.
Ah, bravo. Bravo pour cette.
Mélanie Laurent.
Non, mais...
Une actrice française ?
Non, non plus.
Une actrice pas française.
Non, elle vient de l'Afrique, tout ça.
Une actrice africaine qui n'a jamais vu un éléphant.
Vous enlèverez
ça de votre vocabulaire. Ça, c'est de noirie, vous voulez dire.
Voilà. Obama a dit qu'on pouvait utiliser le mot nègre, donc maintenant on peut l'utiliser. Eh bien non, c'est l'actrice kenyane. C'est une actrice kenyane, Lupita Nyong'o, j'espère bien prononcer.
Vous connaissez même pas le nom.
Qui a quand même reçu un Oscar pour son rôle dans le film 12 Years a Slave.
Elle a quand même reçu un Oscar. C'est-à-dire que malgré le fait qu'elle soit noire,
elle a décidé. Et les s'échauffent.
Et qu'elle a décidé. Mais cela dit, c'est quand même quelqu'un de formidable. Elle s'implique dans la protection des éléphants.
C'est très bien. Et c'est important de me couper pour finir cette phrase. Tout à fait. Puisque les éléphants sont nos amis. On revient tout de suite dans Radio Camping Paris après quelques notes de musique.
Sans transition.
Too spacious. Sometimes I wish I could get away and charter a spaceship to get away from my inhuman race with hearts of Satan's. Kick off my Mason Martins, lay on back like Martha Mason, smoke away my eye and lung to later die at 71.
Et donc vous venez d'écouter Farzai de featuring Joe Fox, voilà, c'était pas mal, moi j'aime bien,
j'ai ça, cool,
ça au bord de la sympa. Plage.
Tu es un homme de goût.
Alban, tu as mis des lunettes d'ailleurs, des lunettes de soleil. Tu vois là, quelqu'un qui est dans l'esprit camping.
C'est la plage, hein. Il manque plus que la piscine dans ce studio finalement. Hein. On pourrait pas l'installer d'ici la fin de la saison, là, tant qu'à faire.
J'ai rendu un hommage dans mon édito à Alain Degreff, que j'aimais beaucoup et qui, je pense, a une petite influence sur le fait que j'aime la radio, la télé.
T'as répondu à Alban, là,
un véritable créateur.
Parce que là, d'accord.
Le mec lance un monologue.
Je crois que Guillaume, toi, tu vas plutôt nous parler de quelqu'un d'autre qui a disparu cette semaine.
Ah, bien joué.
Transition.
Tout à fait. Cher Gestivan.
Guillaume.
Ah oui. Et je dois d'abord définir le mot conducteur.
Merci.
C'est celui qui ne boit pas.
Voilà. C'est fait. C'est parfait. Ça se fait très bien. Parfait.
Alors, chers Gestivan, vagabond auditif sur la bande FM parisienne, je vous salue. Moi, Hubert. C'est l'heure de se mettre de l'huile sur le torse et la main dans un slip. On se détend, c'est l'été. Ebola et le retour au Liberia. On n'est pas bien là ? Alors aujourd'hui, vous l'avez peut-être remarqué si vous disposez des selles, mais il fait très chaud. Faites le test, c'est très simple. Vous glissez votre main sous votre bras. Elle en ressort humidifiée comme l'entrejambe d'une étudiante en cinéma se trouvant à moins de 500 mètres de Ryan Gosling. C'est que vous avez probablement trop chaud. C'est la canicule et la reine mère, pardon, la ministre de l'écologie, du Nutella et des particules fines, a dit qu'il fallait boire beaucoup. Mais il semblerait qu'un certain Charles P, résident en Corse et dans les Hauts-de-Seine, n'ait pas écouté la seconde partie de la phrase de Madame Royale qui précisait bien de boire beaucoup d'eau. Charles aurait tout simplement omis de diluer son apéritif anisé favori. Et dans ces cas-là, il se passe quoi, Charles? Il se passe que...
D'accord.
Il se passe...
On a mis du temps.
Il se passe que tu es déshydraté, Charles. Alors certes, la chaleur, c'est bon pour l'équilibre des caisses des retraites. Mais ton décès précoce à l'âge de 88 ans aurait pu être évité ou tout du moins repoussé si tu avais simplement pensé à rajouter de l'eau dans ton anisette. Alors, petite rétrospective, hein, très rapide, pour retracer l'itinéraire de ce personnage voué à devenir historique. J'en profite pour dire à Madame Belkacem qu'il faut tout de suite refaire la réforme des collèges pour réécrire les programmes de toutes les matières en incorporant Charles Pasqua partout, de toute urgence. Le temps m'est compté, je ne pourrais malheureusement pas aborder toute la vie de ce grand homme. C'est donc très important de rattraper ce retard à l'école. Alors, produit d'une union éphémère mais intense entre Al Capone et Jabba le Hutt, le petit Charles Pasqua naquit en l'an de grâce 1927. Charles vit une enfance heureuse dans le maquis corse, entouré d'explosifs, de fromages explosifs et de cocktails Molotov. En 1942, alors que Charles était un des followers les plus assidus sur les réseaux sociaux d'un autre Charles, général à la Gaulle célèbre depuis le buzz provoqué par le hashtag résistons 18 juin, il décide à l'âge de 15 ans de s'engager dans la résistance. Et c'est bien sa première connerie, parce que c'est à cause de types comme ça qu'on parle super allemand, super mal allemand, qu'on a des comptes publics déséquilibrés et qu'on n'a pas le droit de rouler à plus de 130 sur les autoroutes. Tu fais chier, Charles. Alors, si je devais dire de bien lui, je dirais que Charles Pasqua était à l'éthique en politique ce que Berlusconi est au progrès de la condition féminine. Grand amateur de pétanque, c'était un exemple, une boussole morale pour tous ces élus qui gouvernent avec leurs grosses couilles, en sirotant un verre de single malt accompagné d'un bord de chaise de la Havane dans une backroom sombre du conseil général de Hauts-de-Seine, tout en dealant des valises remplies de francs CFA venus des pays de notre empire. C'était l'époque où les élus faisaient des trucs d'élus peinards, ils se laissaient pas emmerder par la foule, nos partenaires européens et toutes ces bêtises de minorités qui sont même pas foutues d'être hétérosexuelles et blanches. C'était l'époque où l'action des hommes politiques était guidée par un principe dicté par le philosophe contemporain le plus influent selon moi, à savoir Rocco Siffredi, le plus grand théoricien et praticien du « plus c'est gros, plus ça passe ». J'adresse donc une pensée émue à tous ces lieutenants orphelins de la mafia, pardon, du conseil départemental du 9-2 qui vont devoir se trouver un nouveau parrain. Patrick Balkany, je te soutiens dans cette terrible épreuve. Par la suite, Charles Pasqua devint marionnette dans les guignols de l'info, tout comme Alain de Greff. L'ancien directeur des programmes de Canal est lui aussi parti hier. Ces deux-là sont partis le même jour et c'est un gros morceau des années 90, donc de nos précieuses enfances qui s'en est allé ce lundi 29 juin 2015. Heureusement, Doc Gineco, Bernard Tapie, Philippe Rizzoli et les Spice Girls sont toujours là pour témoigner de cette fin de 20e siècle révolue. Maintenant, l'hommage de Monsieur de Greff, je requiers une minute de silence pendant que je tente de m'introduire dans le postérieur d'un mouton. Merci à vous.
Eh oui, qui a toute cette nostalgie, le RPR. Hein, et voilà, le loup Pasqua qui a rejoint la chèvre Seguin. Tout ça. C'est incroyable.
Radio Camping Paris. Du lundi au jeudi, cet été, de 19h à 20h.
Martin, comme tu as été sage, tu n'auras pas à définir ton terme.
Non, le micro-trottoir, c'est quand ton red chef, il a rien à foutre et qu'il te donne ça parce que c'est le seul truc qui reste à faire.
Voilà, c'est une très belle définition. Et tu vas nous parler de séries télé aujourd'hui.
C'est ça. Vous avez vu, hein, c'est l'été, le soleil est ardent et donc les conseils s'accumulent. On les a entendus, Charline ne les a pas suivis malheureusement. Se rafraîchir, rester à l'ombre et donc rester chez soi toute l'après-midi et pour éviter d'attacher à la poêle comme un vieux bout de bacon. Alors on a enfin du temps libre pour soi, pour se poser devant l'ordinateur ou la télé et rattraper toutes ces séries qu'on doit regarder depuis des lustres. Alors pour vous vous aider dans cette tâche ingrate. Trois séries mythiques terminées depuis longtemps, mais qui méritent d'accompagner vos longs après-midi à l'ombre en attendant la fraîcheur du soir. Et je commence par la quintessence du western version série. Alors vous oubliez immédiatement Dr. Quinn, femme médecin, ou La petite maison dans la prairie. Je sais que vous êtes fan, Adrien.
C'est très bien tout ça.
Ici, on est bien à l'époque de la conquête de l'Ouest, mais là, c'est le vrai. Hein, c'est celui qui sent la pisse, la sueur, celui qui se règle à coups de fusil dans la gueule et qui met dans la bouche des acteurs une insulte restée mythique pour tous les fans de Deadwood, car c'est bien Deadwood qu'on parle. Bienvenue à toi, pied tendre. Bienvenue à Deadwood.
Who, you ignorant fucking chink? Who? 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 Who stole the fucking dope? Cocksucker!
Oh, Jesus. Glad to tell you that fucking word. These are whites, huh? I find cocksuckers. I find dope. And cocksuckers who steal fucking dope. Huh? Wait,
cocksucker?
Oh, yeah.
Voilà, donc le ton
est extrait.
Voilà, ouais, le ton est donné, hein. Cocksucker, voilà. Suceur de bite. Hein, voilà. Je te le traduis. Merci. Parce que tu m'as demandé. Voilà, et sans doute le mot fétiche de Deadwood, on l'entend un bon millier de fois durant les trois saisons de la série. Et Deadwood, c'est donc l'histoire de la construction d'une ville de l'Ouest américain à travers des personnages emblématiques. Ça va de Al Swearengen, le patron quasi mafieux du saloon, hein, qu'on vient d'entendre parlant anglais, à Wu, le blanchisseur chinois qui ne connaît qu'un mot en anglais, cocksucker, à Seth aussi Bullock, le nouveau shérif de la ville, donc qui vient d'arriver en ville. Voilà, des classiques de l'univers western, mais ici leur histoire est approfondie tout au long des trois saisons et se détache rapidement des stéréotypes du genre. Deadwood, c'est la vie quotidienne d'une ville, mais plongée dans un univers sauvage, sans règles, sans lois. Un monde qui voit passer des légendes comme Buffalo Bill ou Calamity Jane, mais un show qui se tient toujours plus près de la fresque sociale que du western spaghetti, c'est pour ça, donc regardez-le. Deuxième conseil série, tout de suite, on va passer à autre chose, on part toujours aux USA, mais cette fois-ci de nos jours, au cœur des champs de maïs à Dillon, Texas.
Every man at some point in his life. He's gonna lose a battle. He's gonna fight and he's gonna lose. But what makes him a man is that in the midst of that battle, he does not lose himself. This game is not over. This battle is not over. So let's hear it one more time. Together. Clear eyes, full hearts.
Can't lose.
Let's go!
Voilà, Clear Eyes, Full Hearts, Can Lose, la devise de Friday Night Lights, une série qui avait tout pour être le drama sportif et lycéen débile, oui. Adrien.
Traduire la devise.
L'œil clair, le cœur plein, ne peut pas perdre. On va dire ça comme ça. Voilà, tu aimes les traductions. En fait, t'es une pipe en anglais.
Tout à fait. J'ai employé un autre mot, moins vulgaire, mais sinon c'est le résultat est le même.
Donc ça aurait pu être le drama sportif débile et lycéen de plus, hein, comme les frères Scott, c'est ça qui s'appelait avant, ou ce genre de truc. Et ça se révèle en fait durant 5 saisons être une géniale peinture de la jeunesse texane, de ses aspirations, aussi de son ennui, parce qu'on se fait un peu chiot au fin fond du Texas. Un show porté par la performance énorme d'un homme qui s'appelle Kyle Chandler, qu'on a vu depuis dans Interstellar, dans Friends, effectivement. c'était avant, mais c'est bien quand même. Et donc le coach Eric Taylor qui dirige l'équipe de foot américain du lycée de Dillon, une équipe plusieurs fois championne, en fait la seule fierté, la seule divertissement de la ville, très croyante, une ville très croyante, où s'alignent les pelouses vertes et les dériques de pétrole. Alors si ici le foot américain est au centre de la série, c'est seulement un prétexte pour décrire des personnages vraiment attachants, des situations complexes et une certaine réalité de l'Amérique profonde. Pour finir ces chroniques séries, j'ai encore 2 minutes, c'est bien, à découvrir cet été, on reste aux USA encore, mais cette fois-ci on part pour la meilleure série de l'histoire.
Ah, la meilleure.
Voilà, son nom c'est Tremé, son créateur c'est David Simon, hein, bien connu déjà showrunner dans les années 2000 d'un certain The Wire. Ici on n'est plus du tout à Baltimore, on est à la Nouvelle-Orléans, 2006, quelques semaines après le passage de l'ouragan Katrina. Alors autant vous le dire, la ville est dévastée, c'est le point de départ des 5 saisons de Tremé, une véritable œuvre monde au plus près des populations de la ville. En fait c'est un show qui, comme The Wire, part du plus petit, un vieil homme noir qui reconstruit sa maison ravagée par l'ouragan, pour ensuite aborder le plus large, les plans de reconstruction de la ville, la lutte pour la défense de la musique de la Nouvelle-Orléans. Tremé, en fait c'est un roman qui s'anime, c'est aussi une rencontre avec la musique de la Louisiane, avec les traditions du Mardi Gras et des Cajuns. On sort pas indemne de cette série, on tombe amoureux de Annie la violoniste, de Antoine Baptiste le joueur de trombone, de Jeannette la chef cuistot et de tous les autres. Et c'est d'ailleurs sur la musique de Tremé que je vais terminer cette chronique. Voilà, Tremé, Friday Night Light, Deadwood, vous n'avez plus de raison de sortir bronzé cet été, restez devant l'écran, on s'écoute un peu de musique. We'll be right back.
somebody will tell you what's carnival for. Get your ticket in your hand. You wanna go to New Orleans. Get your ticket in your hand. You wanna go to New Orleans. You know when you get to New Orleans, somebody'll show you the Zulu King. You will see the Zulu King down on St. Paul and Dumas. You know you see the Zulu King down on St. Paul and Dumas. And if you stay right there, I'm sure you'll see the Zulu.
Eh ben, en tout cas, autant tout à l'heure on n'a pas eu envie de voir le film de Mocky, là ça donne envie, cette, ce petit morceau de voir la série.
Allez-y, votre vie sera meilleure après, c'est une promesse.
Eh bien, nous aussi, dans Radio Camping, on a notre série. Ça va être tout de suite Vol 939, l'épisode 2 d'une série qui a commencé hier et qui se continuera tout au long de Radio Camping. Et c'est maintenant.
Vous écoutez Radio Camping Paris sur le 93.9.
Précédemment, dans Vol 939, l'avion s'apprêtait à décoller lorsque le copilote, totalement ivre, s'est endormi, retardant ainsi le décollage de l'appareil.
Vol 939, pourquoi ne décollez-vous pas ?
Eh ben en fait, on a besoin d'un médecin, le copilote a fait un malaise.
Impossible de faire rentrer quelqu'un dans l'appareil, vous êtes en procédure de décollage.
Ouais mais justement, on peut pas décoller puisque le copilote a besoin d'un médecin. Alors on fait quoi ? On fait quoi ? Allô ?
Bonjour, vous êtes bien en relation avec le répondeur de la tour de contrôle, veuillez laisser un message après le...
Putain, ça a toujours été des grosses branques. Comment il s'appelle ? Stewart !
Oui, commandant ?
Alors, Stewart, demandez s'il y a un médecin dans l'avion.
Attention, il y a la baleine.
Oh, debout là, debout poivre.
Commandant, j'ai trouvé un médecin.
Bonjour, docteur Lebert enfanté, qui est le malade?
Bah peut-être le type allongé par terre qui est en train de baver.
Ah oh, oui, très juste. Monsieur, ça va hein?
J'ai un peu la tête qui tourne.
Je vois, petit coquin. Je vais l'ausculter pour voir, mais je vais devoir enlever son pantalon.
Quoi
hein.
Mais pourquoi faire?
Mais c'est mon métier, je sais ce que je fais. Aidez-moi à lui enlever son pantalon.
Ce serait pas plus simple de lui jeter de l'eau sur la tête?
C'est moi le médecin, petit coquin. Alors je vous dis qu'il faut enlever son pantalon.
Je vais voir si je ne trouve pas un autre médecin pour un deuxième avis.
C'est ça. Attendant, je vais lui enlever son pantalon. Alors, hop.
Pourquoi
je suis sûr que c'est indispensable, docteur.
Mais complètement.
Ça y est, j'ai trouvé un autre docteur.
Professeur Brousseau de la clinique franco-britannique de Levallois, ancien interne des hôpitaux de Paris, chef du prestigieux service de... Enfin, un truc important.
Ouais, super, voilà le patient.
Pourquoi est-il à moitié nu ?
The Love Sculptor !
De toute évidence, cet homme est sous. Il faut juste lui donner du nitrate de bétaïne.
Oui, en suppositoire.
Non, je pensais effervescent.
Ah, et bon, mais dans ce cas, je vous laisse faire.
Je vous préviens, je ne suis pas conventionné.
Eh bah, de toute façon, qui est conventionné ou pas, s'il n'est pas sur pied, vous décollez pas.
Mais vous en avez du nitrate de machin ?
Évidemment, dans ma valise.
Ouais, et puis elle est dans les soutes.
Forcément, oui, bien sûr.
Ah ouais, donc professeur, suivez-moi, on va aller chercher votre valise. Hein.
Ça va vous coûter des dépassements d'honoraires, et j'espère que l'autre pignouf n'est pas à la CMU.
Et moi, je fais quoi ?
Bah, vous contactez la tour de contrôle.
Moi, je vais continuer à l'ausculter.
Non, vous sortez de là, vous retournez à votre place.
Le commandant et le professeur vont-ils trouver le nitrate de bétaïne dans les soutes ? Le steward va-t-il réussir à joindre la tour de contrôle ? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de Vol 939.
Merci beaucoup pour cette deuxième émission de Radio Camping Paris. Merci à tous. Demain,
oui,
demain, Mélanie à la présentation.
Nous
continuerons
toujours
à voyager.
Là.
On toujours. Remercie Violette qui quand même nous a fait partager, nous a fait voyager en Asie centrale.
Je crois qu'elle a l'air contente.
On t'embrasse Violette.
Hein. Elle sort pas souvent à part ça.
Merci à vous. Vous avez été brillants.
Quartier.
Monsieur, rappelons quand même que Radio Camping Paris, c'est l'émission de ceux qui ne partent pas en vacances.
Voilà. Qu'ont une vie de merde. Hein.
Voilà.
Pour les stagiaires.
Exactement.
Donc, bonne vie de merde.
Voilà, et tel l'avion du vol 939, cette émission va monter dans les airs jusqu'à la fin juillet. Je vous remercie. Continuez à écouter les programmes de Radio Campus Paris. On se retrouve demain à la même heure. Merci à tous.